Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
De louange et d'adoration, un message qui est propre à nous fortifier, à nous encourager. Je vous propose donc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 et au verset 19-21, parce que ce sera très bref, on va lire quelques mots et j'aimerais y apporter un commentaire pour les uns et pour les autres, pour chacun d'entre nous, pour fortifier notre foi. Et dans cette espérance que nous sommes jamais seuls, naturellement, et nous le savons, mais nous avons besoin de le vivre. Alors, je rappelle, livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. C'est l'apôtre Pierre qui exhorte la foule, ses auditeurs, et qui dit ceci: « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, Dieu dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Alors, nous allons simplement nous arrêter sur deux mots qui sont tout à fait susceptibles de nous parler, de nous encourager ce matin. Ces deux mots sont à la fois opposés et complémentaires, si l'on peut dire les choses de cette manière. Ils sont contrastants l'un l'autre. Il y a cette expression « temps de rafraîchissement » qui nous laisse sur une idée de dessèchement, d'aridité et de soif. Et nous avons en effet cette idée qui est développée par Pierre. Pierre qui connaît bien en effet la nature de ceux qui l'écoutent, lui-même étant un juif. Et ça s'adresse prioritairement à ses auditeurs qui sont à son écoute. Et il sait très bien qu'il y a des besoins, d'immenses besoins dans le cœur de ses concitoyens, de ses compatriotes, comme Jésus le fera remarquer dans une autre circonstance rapportée par, je crois, par Marc, par Matthieu, quand il verra cette foule sur les monts de Galilée qui viennent et qui se pressent autour de lui, il dira, mais ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des gens qui sont là, en errance, qui sont là à chercher, à aspirer à quelque chose d'autre que la vie misérable qu'il partage. Alors il parlera de temps de rafraîchissement, et dans cette pensée il y a véritablement une pensée d'espérance, quelque chose de formidable. Quand on a soif, on aspire à une chose, c'est de boire. Quand on a faim, on aspire à une chose, c'est de manger à satiété. Et dans toute situation de dessèchement, comme pouvait connaître la nature dans ces pays d'Orient, c'est que la pluie tombe. Des temps de rafraîchissement. Et nous voyons que derrière, ce qui suit, ce ne sont pas seulement des temps de rafraîchissement, des temps de rétablissement. Et j'ai bien parlé tout à l'heure à la fois d'une forme d'opposition, de contraste, mais ces temps de rétablissement, c'est justement, nous parle de désordre, nous parle de déliquescence, nous parle finalement de quelque chose que nous appréhendons, que nous pouvons analyser, que nous comprenons comme... il y a quelque chose qui manque, parce que le monde, il ne peut s'épanouir dans le désordre, il ne peut pas s'épanouir dans la guerre, il ne peut pas s'épanouir dans le conflit, ou si nous voulons peut-être le rapprocher plus de nous dans la dualité, il faut qu'il y ait véritablement le repos, la paix, donc le désordre, et nous pouvons dire que c'est une remise en bon état. D'ailleurs, c'était la priorité, la primeur du message de Jean-Baptiste en annonçant Jésus. Lorsqu'il baptisait dans le Jourdain, il disait ceci: « Mais approchez-vous de Dieu, repentez-vous, accomplissez la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, votre vie va changer, il va y avoir quelque chose. » C'était une préparation au royaume de Dieu. Donc, une remise en bon état. Et avec force de parole, eh bien, Jean-Baptiste s'adressera à toutes les catégories de ceux qui venaient s'approchant de lui pour leur dire, eh bien, tantôt aux uns d'une manière, tantôt aux autres, ce qu'ils avaient à faire pour retrouver finalement l'ordre, pour sortir de tout cet état de langueur, de misère, de pauvreté morale et spirituelle, si ce n'est aussi une pauvreté peut-être même physique et matérielle. Alors, afin de comprendre et de bien saisir ce langage, nécessité est de retourner aux sources de l'histoire, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier que finalement Dieu interpelle les hommes, comme il le fait présentement, pour nous qui écoutons sa parole ce matin, mais il faut remonter, eh bien là, à l'histoire d'Israël, l'histoire des hommes, où l'humanité a connu et connaît encore aujourd'hui le dessèchement et le désordre, tant sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Pourquoi y a-t-il autant de manifestations de la grâce de Dieu exprimées par Jésus, tant par des paroles, tant par des gestes, tant par toutes sortes de fêtes qui nous sont rapportées à travers les évangiles pour nous montrer cette grâce venue sur la terre pour soulager les hommes? C'est-à-dire tant de guérisons divines, tant de libération des âmes, de langueur, de toutes sortes d'états que nous appellerions aujourd'hui la dépression, l'angoisse, l'anxiété, si ce n'est pour nous dire que finalement des temps de rafraîchissement sont arrivés, que des temps de rétablissement se préparent, ou ils sont déjà en route. Et c'est vraiment notre espérance, surtout dans le contexte, lorsque nous replaçons le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. On pourrait dire que l'homme, finalement, eh bien là, après des siècles et des siècles, a jugulé, a réussi à maîtriser tous ses désordres et tous ses besoins. Loin s'en faut, parce que nous nous apercevons que dans notre temps, il y a autant, sinon plus de désordres, de désaffections, de toutes sortes de misères et de toutes sortes de peines. Donc, nous voyons que, eh bien, les hommes ont voulu par eux-mêmes essayer d'apporter des réponses, mais c'est resté lettre morte, ou c'est resté finalement stérile tout ça. De tout temps, il y a trois visions, trois conceptions d'envisager l'avenir de notre monde. Et peut-être que je donne ce message en fin d'année, puisque c'est le dernier dimanche de l'année 2013, pour nous montrer que nous savons ce qui s'est passé avant. Nous vivons le présent avec peut-être, en effet, des questionnements. Mais quant à 2014, je ne vais pas vous le dire, je ne suis pas prophète. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des charges. Il y a des charges dans ce monde. Les cœurs sont chargés, les cœurs sont peut-être toutes empreints de crainte et de peur compte tenu de l'incertitude du lendemain. Mais Jésus nous répond. Et par la bouche de l'apôtre Pierre, il nous dit, mais voilà, des temps de rafraîchissement approchent. Des temps de rétablissement, pour qui? Pourquoi on le sait? Comment on sait aussi comment les choses ont été faites? Parce que la réponse, nous l'avons. Nous savons déjà les choses. Jésus a donné les clés à toutes ces préoccupations. Mais pour qui? C'est important que ça commence par le peuple de Dieu. Et en commençant par le peuple de Dieu, nous sommes aussi ces porte-paroles pour dire au monde qui s'inquiète, au monde qui est troublé, eh bien voilà, si vous écoutez la voix de Jésus, si vous plongez vos regards dans sa parole, eh bien, vous avez cette espérance, vous avez ces temps de rafraîchissement et ces temps de rétablissement. Alors, rentrez dans cette proposition, et peut-être ça peut s'adresser particulièrement, comme nous l'avons entendu, à travers des louanges ce matin, des louanges de délivrance, d'espérance de délivrance. Alors, il ne faut pas passer à côté. Le rafraîchissement, il est pour maintenant. Le rétablissement de certaines choses, il est pour maintenant également. Alors voilà, trois visions, trois conceptions. Il y a d'abord ceux qui croient en rien. C'est pas pour nous. Le monde. Un monde misérable, un monde malade, un monde rempli de toutes sortes de préoccupations et qui se remplit d'ivresse, de toutes sortes et de toute nature. C'est une utopie dans peut-être des croyances ou dans l'illusion de choses que le monde aime tant aujourd'hui, la philosophie, sous toutes ses formes, à travers l'existentialisme, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir, quelle espérance. Il n'y a rien de plus triste que ça, à pleurer et à mourir. Et puis il y a ceux qui croient que l'homme, par ses efforts, par ses capacités, par sa culture, par sa science, par sa sagesse, par son intelligence, va y arriver quand même. Mais le monde n'a jamais fait que ça depuis l'aurore de l'humanité. Et nous sommes véritablement dans ce contexte aujourd'hui, en disant, bien voilà, nous allons y arriver quand même. Nous allons vivre des choses parce que nous allons parvenir à maîtriser ceci et cela. Je voudrais simplement vous rappeler que on attendait avec beaucoup d'anxiété peut-être des solutions sociales en fin d'année. Puis on s'aperçoit que, ben voilà, on va encore descendre, on va encore plonger dans le marasme, toutes sortes de choses. Mais quand je dis ça, je voudrais quand même vous préciser une chose, c'est que quand même, malgré tout, il y en a qui ont été plus malheureux que nous. Dans les temps, dans notre histoire, dans notre histoire de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu là, dans une frilosité, en disant, mais c'est terrible les temps que nous vivons. Mais il y a eu plus triste, il y a eu plus catastrophique que ça. Peut-être que c'est devant l'incertitude du demain, du lendemain, que nous réagissons de cette manière. Mais écoutez, je voudrais vous le rappeler, parce que ça a été l'objet de plusieurs messages. Le passé, c'est le passé. L'avenir n'est pas encore là, vivons présent. Parce que c'est véritablement là où nous rencontrons le Seigneur. Pas la peine d'anticiper sur des choses que nous ne connaissons pas. Mais le monde est dans cette perspective, n'ayant pas la foi en Dieu, et ne croyant nullement la capacité d'un Dieu qui peut secourir les hommes, d'un Dieu qui existe, alors il se dit, Dieu c'est moi. Dieu ce sont ma science et mon intelligence. Et on y arrivera bien. Et on va, en effet, d'échec en échec, et on s'aperçoit que s'il y a des améliorations notoires sur le plan extérieur, parce qu'il faut quand même le dire, on ne va pas non plus se voiler la face et tomber dans le négatif morbide, mais une chose qui est certaine, c'est que sur le plan moral, sur le plan intérieur, combien les gens sont-ils malheureux, combien sont-ils dévastés par toutes sortes de choses. Alors l'homme se dit, bien, on finira naturellement un jour ou l'autre par changer le monde et à atteindre le fameux âge d'or. Eh oui, mais depuis des siècles et des siècles, l'homme court après cet âge d'or et il ne l'a pas encore trouvé. Et puis il y a ceux qui croient en Dieu, ce que nous sommes, les uns et les autres. Nous ne le sommes pas parce que nous avons fait un effort quelconque, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce pour croire en lui. C'est un don. Et combien nous avons envie de dire à tous ces gens qui souffrent autour de nous, mais c'est gratuit. Vous le pouvez comme nous l'avons pu par la grâce du Seigneur. On a quelquefois ce genre de réflexion, même au cœur même de nos familles, en disant, mais qu'est-ce que j'admire ta foi? Mais elle n'est pas admirable, notre foi. C'est notre Dieu qui est admirable. C'est lui qui est admirable, qui nous a donné la foi parce que nous ne méritions rien. Nous n'avions aucune valeur, finalement, pour avoir, eh bien, cette foi, tout simplement. Alors, il y a ceux qui croient dans un Dieu créateur, je repose les questions, mais aussi dans un Dieu sauveur, et ça c'est le plus important. Un Dieu qui agit pour transformer le cœur des hommes et pour former ou reformer. Transformer. Mais pour former, je reviens, un royaume de paix qui est fait non seulement de cette paix, mais d'où découle l'amour et la vérité. Et c'est bien le grand plan que Dieu est venu nous dire aux uns et aux autres à travers la bouche de Jésus. Et ça porte le nom d'évangile, bonne nouvelle naturellement. C'est très basique ce que je suis en train de vous dire, hein, mais peut-être faut-il le dire pour la suite. Alors, puisque nous nous posions la question du temps tout à l'heure, le passé, le présent et l'avenir, quelle heure est-il? Vous allez me dire, il est 11h05. Mais j'ai devant moi une grosse horloge. Hein. Mais toujours est-il, quelle heure est-il à l'horloge du temps, et quel diagnostic ce Dieu que nous connaissons pose-t-il sur l'état de notre monde d'aujourd'hui? Comment le voit-il? Alors nous avons déjà une petite idée, puisque il suffit de s'en référer à l'Écriture sainte, Ancien, Nouveau Testament. Et à ce moment-là, nous sommes en quelque sorte en accord avec ce que Dieu dit. Et les propositions qu'il fait, non pas pour que le monde s'enfonce de plus en plus dans la misère et dans la tristesse et dans le chagrin et dans la mort, mais pour qu'il puisse se ressaisir, puisque nous avons abordé deux questions, le rafraîchissement et le rétablissement, il y a un instant. Et qu'avons-nous à faire, nous les chrétiens? Mais surtout, qu'avons-nous à croire? Parce que de cette foi qui est au fond de notre cœur, nous accomplirons la volonté de Dieu. Ça commence par la foi. C'est pas de faire pour faire, parce qu'à ce moment-là, si Dieu est absent, eh bien, ça sera toujours négatif. Ou il y aura peut-être de belles œuvres. Il y aura peut-être de grands élans philanthropiques ou humanistes. C'est vrai, et il ne faut pas le nier. Le monde est fait aussi de cela. Mais c'est pas ça ce qui va transformer et changer les cœurs. Alors, la question est là. Après l'histoire d'un Éden que je qualifierais de rafraîchissant, parce que c'est comme ça qu'il est présenté. Le chapitre 2, imaginez-vous, le chapitre 2 du livre de la Genèse, c'est un Éden rafraîchissant qui est proposé à ce moment-là à l'homme. Et dans sa perfection, dans ce qu'il pouvait y avoir de cette grandeur de l'œuvre de Dieu dans sa création, un Éden harmonieux, il n'y avait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là où justement nous touchons à ce tohu-bohu, à ce désordre qui a été provoqué par finalement eh bien le péché. Les sources vitales de l'humanité ont tari. Et c'est ce que nous pouvons dire. Les sources vitales physiques, les sources vitales morales, psychologiques et les sources vitales spirituelles ont tari et en a résulté un gigantesque chaos dont nous ne sommes pas trop conscients. C'est si lointain. Mais c'est tellement inscrit en nous. Nous le savons en tant que chrétiens parce que nous croyons à la parole que Dieu nous a donnée. Mais le monde n'est pas conscient. Il est emporté dans ce fleuve, dans ce torrent boueux, dans ce torrent tumultueux, mais il ne s'aperçoit pas d'où il va, où il va. Il a peut-être des craintes et des peurs, et à juste raison, mais il ne sait pas. C'est pour ça qu'il se rattrape à lui-même, n'ayant plus cette relation avec Dieu, n'ayant plus cette vision de Dieu. Alors il se dit, bien maintenant, Dieu c'est nous, et nous allons faire sur cette terre ce que ce prétendu Dieu qui n'existe pas pour nous, eh bien, voilà, nous allons le remplacer. Alors, il en a résulté un véritable chaos qui a mis le monde sans dessus dessous. Et en hébreu, c'est tohu bohu, hein, que nous exprimons quelquefois, que nous disons, sans dessus dessous. Alors, Dieu parle, et quand il parle en vérité. Le diagnostic de Dieu, il est vrai, et nous n'avons pas à le contester. Et c'est vrai pour notre regard que nous portons à l'extérieur, mais c'est vrai aussi sur nous-mêmes. Mais aussitôt, eh bien, cette parole de Dieu a été contredite. Il nous est dit que Dieu, lorsqu'il a vu sa création, il a vu que tout était très bon. Et aujourd'hui, au regard des hommes, si vous entendez le monde qui vit autour de nous, votre Dieu, s'il a fait les choses très bonnes, pourquoi c'est si mauvais, hein? Voilà, c'est de l'incrédulité, c'est de la révolte, c'est de la rébellion naturellement. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut donner justement cette vision et d'ouvrir les yeux non seulement de notre tête pour voir, parce que les œuvres sont admirables, les œuvres de Dieu sont, quand on les considère dans sa grandeur et dans sa magnificence, sont quelque chose d'extraordinaire. Et nous commençons par la première parabole de la Bible. La première parabole de la Bible, c'est la parabole du serpent. Vous savez que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Chapitre 3, la parabole du serpent. C'est terrible, hein? Alors après, Dieu donnera d'autres paraboles. Il montrera ce que le venin, ce que la morsure de ce premier choc avec l'humanité, cette première rencontre mortelle de l'humanité a donné. Et quand vous regardez les paraboles de l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu avec des paraboles. Alors il y a à la fois le diagnostic qui est donné dans ces paraboles et il y a le remède à ce moment-là. Repensez à toutes ces paraboles que Jésus a données, le bon berger. Et puis, il y en a d'autres, la lumière, le pain de vie, le fils prodigue, et ceci et cela. Il y a à l'origine toujours la parabole du serpent qui tue, qui fait mourir, qui amène le désordre, qui donne la soif aux hommes, une soif terrible, soif de Dieu, soif d'espérance. Et c'est vraiment l'image de cet ennemi spirituel qui atteint l'humanité, qui parle et qui dit à l'homme le mensonge. Et l'homme, curieusement, le croit. C'est curieux, ce renversement de choses. Il va croire au mensonge. Dieu parle tout à nouveau. Et là, il dit la vérité. Et les hommes ne croient pas à la vérité de Dieu. C'est troublant, une chose pareille. C'est troublant, naturellement. Alors Adam va croire le serpent. Bien qu'il ait cru auparavant, dans cet Éden rafraîchissant, qu'il y avait la promesse du bonheur, qu'il y avait la bonheur. C'était même pas la promesse, c'était le bonheur. Mais vous savez, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, est-ce que l'on sait qu'on est dans le bonheur? C'est quand on le perd qu'on s'aperçoit ce qu'est le bonheur réellement. C'est ainsi. Et dans le paradis où coulaient, je reviens au chapitre 2, jadis, des fleuves splendides, ils nous sont nommés trois fleuves qui se rejoignent et qui étaient véritablement, eh bien là, l'emblème d'une bénédiction, d'un rafraîchissement et d'un renouvellement permanent de la vie qui ne devait jamais cesser. C'est ça l'histoire du paradis terrestre. Alors, après l'intervention de cet ennemi, eh bien, ça s'est suivi d'une sécheresse et d'une soif de l'humanité. Une humanité qui se dessèche. Une humanité qui va avoir faim. Mais quand elle tendra la main pour pouvoir se désaltérer ou se nourrir, ça sera comme un mirage. Comme une image fugitive. À chaque pas que l'homme se fait, alors à ce moment-là, eh bien, ça disparaît au fur et à mesure. Et pourtant, il y avait tout dans ce paradis rafraîchissant, d'harmonie. Il nous est dit qu'il y avait ces fleuves qui étaient là pour donner, eh bien, tout ce qui est nécessaire à l'homme. Et puis, vous remarquerez que Dieu avait créé aussi quelque chose de tout à fait particulier. Dans ce paradis-là, il y avait de l'or. Et il nous est dit que cet or-là, l'or d'Ophir, était le plus pur qui soit. Oui. Mais si nous revenons par rapport à ce que nous dit le Nouveau Testament, l'or par lequel nous pouvons rentrer tout à nouveau dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez de ce que nous dit Jacques quand il nous dit que votre foi plus pure que l'or. Ben, ce que nous sommes en train de faire lorsque nous nous approchons, que nous prenons la parole de Dieu, que nous la méditons, que nous laissons le Saint-Esprit nous imprégner, à ce moment-là, eh bien, nous fortifions notre foi, et c'est par cette foi que nous pouvons rentrer dans la communion avec Dieu, que nous sommes agréés de Dieu, et que Dieu nous bénit. C'est par la foi. La foi, c'est un don. La foi, c'est une grâce. Ça ne vient pas de nous. Dans le paradis, il y avait ça, cette harmonie et ce rafraîchissement permanent. Et combien nous vivons aussi, et je le rappelle pour ceux peut-être qui sont en souffrance et qui écoutent cette parole, je le rappelle ce matin, lorsque nous sommes dans l'épreuve ou dans la difficulté, lorsque nous sommes dans la crainte ou dans la peur, notre or à nous, c'est de revenir par la foi vers le Seigneur. Et nous y trouvons consolation, nous y trouvons la paix, nous y trouvons le bonheur, nous y trouvons la tranquillité, la sérénité. Quelle réaction nous pouvons avoir et quel bonheur de connaître et de savoir qu'il y a des promesses que nous saisissons par la foi et qui nous ramènent et qui nous replacent dans le contexte de la paix de Dieu et dans sa communion. Notre or à nous, dans le jardin d'Éden, mais maintenant, ce que nous avons. Alors, il y avait des pierres précieuses également. Et aujourd'hui, que reste-t-il de cela? Ce qui motivera Pierre à dire, mais des temps de rafraîchissement sont là. Et un temps de rétablissement arrive. Parce que Dieu ne s'est jamais résigné à voir son homme, enfin, l'homme, l'humanité perdue, naturellement. Et que reste-t-il aujourd'hui si nous considérons, et je ne veux pas être prophète de malheur, et je ne veux pas que vous pensiez que je suis en pleine dépression en vous parlant comme ça? Pas du tout, hein. Mais que reste-t-il dans ce monde? Que la misère, que le désespoir et la pauvreté, là où Dieu a dit « Tout était très bon, tout est très bon, le désordre s'est installé, la révolte a pris place et la révolte règne. » Nous sommes dans un monde où nous suffoquons, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Et si nous voulons vraiment vivre notre vie chrétienne, nous allons suffoquer de plus en plus. Je suis toujours étonné, mais je ne juge pas, que quelquefois des chrétiens puissent se sentir bien dans ce monde, moralement, spirituellement. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me gêne, je ne suis pas plus que les autres, hein. Mais nous aspirons, et que Dieu nous aide à aspirer de plus en plus à son retour et à sa venue, où là, ça sera le rétablissement complet et total. Oui. Alors, que va devenir l'homme seul? L'homme qui marche sans Dieu, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui se révolte contre Dieu, qui lui tourne le dos, l'homme qui est égaré, l'homme qui est perdu. Et que va faire Dieu pour rattraper un monde qui s'est échappé de son lieu et de son état de bonheur? Un lieu et un état de bonheur qui est perdu maintenant. Que va faire Dieu dans tout cela? Eh bien, c'est de revenir à notre texte. Pierre, l'apôtre, dira ces mots, « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». C'était pour les Juifs qui étaient là présents, qui écoutaient le message fleuve, on peut dire, de Pierre, tout de suite après la Pentecôte. Mais repentez-vous et convertissez-vous. Nous repentir, c'est ne pas se sentir bien dans le mal. D'accord? Il y a bien d'autres explications. C'est une profonde tristesse. Mais que Dieu nous fasse grâce de pouvoir être toujours dans un état de capacité de nous repentir de nos péchés. Je parle à des chrétiens. Et convertissez-vous, changez de route, changez de vie. Ça nous a été rappelé par une prophétie ce matin. Oui, tu sais les choses. Tu sais les choses, mais nous les savons. Qu'avons-nous besoin de savoir davantage? Maintenant que le Saint-Esprit vienne sur nos vies et nous amène à vivre ce que nous savons et à réaliser ce que nous savons, mais dans la pensée, dans le plan de Dieu, selon l'Esprit, l'impulsion, l'inspiration du Saint-Esprit. Alors que vos péchés soient pardonnés, moi je crois que nos péchés sont pardonnés les uns et les autres. Vous y croyez, j'espère, hein? Parce que quand Dieu nous dit qu'il nous pardonne, eh bien nous devons croire à ce qu'il nous dit, et non pas nous enfermer dans nos prisons, dans une captivité qui nous renferme sur nous-mêmes et qui nous retranche, qui nous rabaisse en quelque sorte, pour nous dire, eh bien, vraiment, je ne suis pas digne du Seigneur, mais on ne sera jamais digne du Seigneur. C'est sa grâce qui nous recouvre. Il faut croire qu'il nous pardonne. Alors, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, la repentance, la conversion, combien quelquefois aussi l'Église a besoin de se reconvertir, de se rapprocher tout à nouveau de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu efface. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ça viendra de lui, ça ne viendra pas d'ailleurs, c'est pas par l'effort et la force humaine, hein, et qui envoie celui qui a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie pour les Juifs et le Sauveur pour tous les hommes, mais notre Sauveur et notre Seigneur à nous aussi. Il est là, il est au milieu de nous, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Rafraîchissement et rétablissement. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Ce plan de Dieu, ou cette proposition de Dieu se décline ainsi, nous l'avons lu il y a un instant, au chapitre 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, et le monde agit dans l'ignorance, ne voulant pas la connaissance de Dieu. Ainsi que vos chefs, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes que son Christ devrait mourir. » Naturellement, et puis après nous avons toute la suite, et je vais la lire tout à nouveau. Alors repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes autrefois. Et je continue. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Confirmation, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, où une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. S'il y en a un qui doit être écouté, c'est Jésus. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est-à-dire exclu en quelque sorte. Mais c'est pas Dieu qui exclut, c'est nous. C'est l'incrédulité de l'homme qui l'exclut lui-même, qui s'exclut lui-même. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères pour Israël. Nous sommes des enfants d'adoption. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, vous détournant chacun de ses iniquités. Il vous l'a envoyé pour vous bénir. Dieu est là, au milieu de nous, pour nous bénir. C'est l'Emmanuel de Noël. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous. C'est très simple ce que nous disons. Ce sont des paroles de rappel pour nous montrer que notre foi a besoin d'être fondée et enracinée dans la déclaration de ce que Dieu nous fait. Alors, nous touchons à quelque chose de formidable ce matin, me semble-t-il, enfin moi, Seigneur m'a conduit à vous le dire, c'est l'excellence de la vie dans l'esprit. Comprenez ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, on va le redécouvrir, on va le relire brièvement. L'excellence dans la vie de l'esprit, écoutez bien, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et un peu plus loin, il nous est dit tout simplement, ce sont des merveilles de Dieu. Si je reprends le texte qui nous est donné un peu plus loin, c'est toujours Pierre. Oui, il est dit ceci, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'était à destination des Juifs. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, ce que nous avons lu tout à l'heure, « Repentez-vous. » Repentez-vous dans le sens, soyez conséquents, réfléchissez, laissez-vous toucher par l'action de Dieu, laissez la foi rentrer dans votre cœur, revenez de vos spéculations et de vos analyses, toutes humaines, mais vaines, illusoires. Alors repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est la plupart d'entre nous, c'est que nous avons obéi à cela. Et si nous avons obéi, c'est parce que nous y avons cru autrement. S'il n'y avait pas cru, on n'aurait pas fait. On est d'accord. Pour le pardon de vos péchés, vous avez remarqué que le message de Pierre est répétitif. Mais il est répétitif à bon escient. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. J'en arrive à l'essentiel de notre message, la vie de l'Esprit. Ouais. La vie par le Saint-Esprit, que nous pouvons appeler peut-être communément entre nous la vie spirituelle. On n'a pas été appelé à une vie uniquement charnelle, basique. On a été appelé à vivre une vie d'une autre dimension. Et Jésus le marquera d'une manière très vigoureuse dans cette rencontre avec Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin et nous sommes exhortés à rentrer dans une autre dimension dans cette Église. Non pas une vie traditionnelle, non pas une vie religieuse évangélique, mais une vie spirituelle, aller plus loin. À rentrer, à pénétrer dans une autre dimension, alors à ce moment-là, je peux vous dire que tous ces fleuves vont jaillir, que la puissance du Saint-Esprit va se manifester, le souffle de l'Esprit va se manifester au milieu de nous. Nous l'avons connu, mais nous avons besoin de le reconnaître tout à nouveau pour le vivre naturellement. La Pentecôte, eh oui. Pourquoi marches-tu en baissant la tête, ta tête dans tes épaules? Pourquoi n'as-tu que des pensées négatives en disant « je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas » Alors tu as raison de dire que tu n'y arriveras pas, parce que tu as besoin de l'aide de Dieu pour y arriver. Jésus nous dit « mais sans moi vous ne pouvez rien faire ». Vous êtes attaché au cep, sarment que nous sommes, mais il faut qu'il puisse y avoir la sève qui monte. La sève, c'est l'esprit. La sève, c'est ce sang de la vie, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose. Nos églises, quelquefois, sont frappées d'une certaine langueur, d'une certaine léthargie. Ce que nos pères n'ont pas connu, hein. Le souffle. Ha ! À travers, j'espère que je vous fais pas peur, hein, en soufflant sur vous. Mais c'est quelque chose. Et nous, cette génération qui est la nôtre, nos enfants qui viennent derrière ont besoin de reconnaître et de connaître tout à nouveau ce souffle de Dieu. Autrement, eh bien, nous allons tout simplement, sans nous en apercevoir, nous endormir doucement, où il n'y aura plus la vie. Je vous l'ai rappelé dimanche dernier, je dis, méfions-nous. Hein. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous visite, que Dieu nous stimule, qu'il nous prenne. Et vous allez voir que là, et vous le faites déjà, frères et sœurs, et je bénis le Seigneur, mais nous allons voir que tout à nouveau, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Moi, je l'attends. Même si je suis en fin de parcours, je l'attends. Eh oui, parce qu'il y a la pluie de la première saison et il y a la pluie de l'arrière-saison. Et l'Église a besoin de connaître, après la pluie de la première saison, qui a marqué notre pays d'un souffle de l'esprit et le monde entier, il y a besoin d'avoir quelque chose qui se révèle. Et Pierre, toujours Pierre, dira ceci dans son discours de la Pentecôte. Il dira, mais je vous rappelle les paroles du prophète Joël. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards auront des songes, etc., etc. La puissance de Dieu. Il faut y croire. Et la puissance de Dieu, frères et sœurs, c'est de croire à ce que la parole nous dit, ces promesses de renouvellement et de rafraîchissement, et de pouvoir déjà, même si nous ne le voyons pas, et même nous n'avons pas besoin de le comprendre, mais déjà de pouvoir louer le Seigneur, de le bénir et de l'adorer. On en revient toujours à la même chose. Les victoires de David dans les psaumes, c'était des victoires qui avaient été prises parce que David, même dans ses misères, dans ses tribulations, dans ses persécutions, eh bien, revenait toujours vers Dieu et lui apportait le témoignage de sa joie et de son bonheur de le connaître, même si le malheur le frappait de tous les côtés. Eh oui, la Pentecôte. Je ne veux pas être très long, mais je voudrais quand même vous rappeler ça, parce que c'est toujours lié avec la Pentecôte. C'est toujours lié avec un souffle de l'esprit. Vous allez reconnaître ces paroles. Jean. Évangile. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, il n'a pas murmuré, il s'est écrié, je voudrais même croire qu'il a crié Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mes frères et sœurs, vous avez soif. Hein? Vous avez soif de la présence de Dieu. Nous avons soif d'une communion plus rapprochée. Moi, je le déplore pour ma propre vie. Je vous le dis honnêtement, c'est pas parce que je suis le conducteur spirituel de cette église, j'ai besoin encore. Et je trouve en moi tellement de résistance, tellement de choses. Je le dis humblement. Mais Seigneur, donne-moi d'avoir plus, d'avoir davantage, ouais, d'aller encore plus loin. Alors ça restera certainement limité jusqu'à tant que je serai encore dans cette vie, mais je sais qu'un jour, de l'autre côté, ce sera la plénitude, hein. Pour moi, pour vous, Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Alors, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est pas vers le pasteur, c'est pas dans une église particulière et ceci et cela. Qu'il vienne à moi, c'est bien précisé. À ce moment-là, qu'il boive. Donne-moi d'avoir soif. C'est le problème des personnes qui arrivent à un certain âge, ils ont plus soif. Et ça provoque de la déshydratation. Moi, je sais qu'il faut que je boive beaucoup en ce moment. Ma femme me dit toujours « bois ». Il y a des femmes qui disent à leur mari « arrête de boire ». Parce que je dois régler un petit problème de santé, mais c'est pas grave. Mais elle me dit toujours « bois ». Surtout avec le temps tellement altérant qu'il y a dehors en ce moment. Eh oui. Alors, mais ça c'est une question de raison. Il faut que je me fasse une raison, il faut que je boive. Mais une chose qui est certaine, c'est que spirituellement, moralement, psychologiquement, spirituellement, je dois avoir soif. Seigneur, toi, tu peux me donner soif. La soif dont je parle, c'est pas du fanatisme, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de courir ici et ailleurs pour essayer de trouver la meilleure fontaine ou la meilleure source. La meilleure source, nous la connaissons. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et il nous a dit, mais que celui qui croit en moi, parce que c'est toujours lié, parce que je crois en toi, que tu as fait des promesses pour me désaltérer, pour me rafraîchir. Alors celui qui croit en moi, il ne nous est pas dit, un petit filet d'eau va couler. Non, non, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et nous avons l'explication. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire que Jésus est mort pour nous, il a été crucifié, il est ressuscité, monté au ciel, il a été glorifié, et le Saint-Esprit est venu. Que faisons-nous du baptême du Saint-Esprit? Que faisons-nous de la vie de l'Esprit? J'aime bien cette parole de Paul, parce que nous sommes confrontés toujours à nos limitations humaines. Quand il nous est dit, mais nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, par des soupirs inexprimables, eh bien, porte d'une manière parfaite jusqu'au trône de Dieu, dans un langage que l'on appelle un langage extatique, une langue inexprimable, les besoins, nos besoins à chacun, les besoins du monde, les besoins de l'Église. Si moi je ne peux pas trouver les mots dans ma langue maternelle, en tous les cas en priant en langue, eh bien à ce moment-là, ça monte directement vers Dieu, au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'important. Mes frères et mes sœurs qui avaient été baptisés d'eau, ou ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, mais le Seigneur va vous le donner. Vous êtes des enfants légitimes, et le Seigneur va vous le donner. Peut-être faut-il dire, eh bien Seigneur, moi j'ai perdu maintenant peut-être l'espoir d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais non, ne perdez pas l'espoir, le Seigneur est encore le même pour vous baptiser. Même après des mois, même après des années, il est toujours le même pour vous baptiser. Mais faut s'y attendre, faut y croire. Paul a raison de dire, quand il écrira cette merveilleuse lettre, 1 Corinthiens chapitre 13, non, chapitre 12, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voulez vous édifier ? Édifiez-vous, nous dit le Jude dans sa lettre, édifiez-vous en priant par le Saint-Esprit. Mais Seigneur, je parle pour moi, donne-moi de prier de plus en plus en langue. On dira peut-être que je suis fou. On dira peut-être, puisque je vous ai parlé de boire tout à l'heure, que je suis ivre. Mais ne vous y fiez pas. Remplis du Saint-Esprit. Pas à moitié, mais de plus en plus. Nous arrivons dans des temps où nous allons avoir besoin vraiment de la vie de l'Esprit à encore un autre niveau. Le monde a toujours eu besoin, l'Église a toujours eu besoin dans ce monde d'être remplie du Saint-Esprit. Mais peut-être encore davantage et toujours davantage. Dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est dit cette parole au chapitre 51, au verset 3, je relis cela. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de son peuple. Permettez-moi d'ajouter, il a pitié de son Église. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. On en a parlé tout à l'heure, hein. Et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Écoutez bien, les actions de grâce et le chant des cantiques. Frères et sœurs, quand nous nous retrouvons ensemble, louons, bénissons, adorons notre Dieu. Par le Saint-Esprit. L'ancien monde, dont les origines et dont nous sommes l'espèce, la nature et l'argile, Adam, l'ancien monde, Adam, disparaît. Ouais. Un nouveau monde dont Paul nous parle, un nouvel Adam est arrivé. C'est Jésus-Christ qui nous a communiqué une vie nouvelle, qui nous montre maintenant que la terre, eh bien là, est destinée à devenir le royaume de Dieu, mais en passant par les cœurs. Ce ne sera pas à frapper les regards, en passant par les cœurs. Alors, il y a un monde qui disparaît, et il y a un monde qui apparaît. Et c'est encore le prophète Ésaïe, au chapitre 65, qui nous dit cette parole, elle est très belle. Il est dit ceci au verset 16. Simplement, voilà que je retrouve. Celui qui voudra être béni dans le pays, celui qui voudra être béni dans sa vie, celui qui voudra être béni dans l'Église, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité et il nous conduira dans toute la vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Et vous savez ce qui suit, si vous l'avez devant les yeux, mais je vous ai pas donné la référence si je vous l'ai donné, hein. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, nous dit Dieu, les anciennes souffrances. Vous souffrez, frères et sœurs, vous avez des tribulations, nous souffrons, nous avons des tribulations. Nous ne sommes pas oubliés de Dieu, vous comprenez? Mais Dieu veut nous montrer quelque chose d'autre. Il veut faire apparaître sur notre chemin, qui est quelquefois rempli de peine, de souffrance, un ciel qui est sombre dans notre vie, sur un chemin imprécis. Eh bien, il veut nous dire, mais écoute, viens à moi. Je te donne des temps de rafraîchissement. Et si nous pouvons peut-être expliquer nos difficultés, nos tribulations, sachant qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a quelque chose. Et si Dieu les permet, c'est qu'il veut nous faire rentrer dans une plénitude de joie et de la vie, d'une vie spirituelle encore autre que nous pouvons concevoir. Ne vous découragez pas. N'allez pas vous démoraliser, parce que ce que vous vivez actuellement, c'est que le Seigneur va vous montrer quelque chose encore de plus grand. Et vous saurez que c'est Dieu qui vous a délivré à ce moment-là. Ouais, vous le saurez. Oui, les anciennes souffrances seront oubliées. Moi, j'aime bien ce passage. Je vais vous dire pourquoi je l'aime bien, parce qu'on nous l'a vécu plusieurs fois. Il y a un autre texte dans la même page. Quand il se trouve encore du jus dans une grue de raisin. C'est le même texte, hein? Quand il se trouve encore du jus, vous avez perdu tout votre jus? Excusez-moi l'expression, hein? Non? Il vous reste encore un souffle de vie? Il vous reste encore quelque chose qui peut exprimer votre foi? Alors quand il se trouve encore un peu de jus dans une grappe, on dit ne détruis pas, Dieu n'est pas venu pour détruire, il est venu pour nous rafraîchir et nous faire vivre, hein? Car il y a là une bénédiction. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire de la part de Dieu qu'il y a encore des bénédictions qui vous attendent. Mais il faut y croire. Et pour y accéder, il faut que véritablement, eh bien, la sève divine dont nous avons parlé dans cette fameuse parabole de Jésus, le cep et le sarment, puissent trouver la liberté de rentrer, de nous envahir et de nous remplir de la plénitude, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors les temps de dessèchement sont finis. Si je parle comme ça, c'est parce que Dieu est en préparation de faire quelque chose pour nos frères et sœurs qui tournent en rond depuis quelque temps, depuis peut-être longtemps même. Si je le dis, c'est parce que je le fais avec une conviction. Dieu va nous faire rentrer dans quelque chose et va vous faire rentrer dans quelque chose. Et vous savez, quand une église, quand la majorité des chrétiens dans une église sont remplis du Saint-Esprit, ça renverse le côté négatif qu'il peut y avoir de l'autre, dans un inverse. Mais quand tout le monde vire dans le mauvais sens, alors à ce moment-là, l'Église, elle va plonger dans une inertie, dans quelque chose qui... Et là, nous n'entendons que des plaintes et des cris. Mais le Seigneur est venu justement pour nous délivrer. J'oublierai ces anciennes souffrances. Tu oublieras tes anciennes souffrances. Tout simplement. Voici le temps du rétablissement. Je le dis de tout mon cœur. Dieu va envoyer son rétablissement parmi son peuple. Et je ne parle pas seulement dans l'église, pour l'église de Saint-Nazaire et de Redon, que nous connaissons si bien, c'est notre famille locale, mais je parle que notre pays a besoin aussi de cela. Notre monde a besoin de cela, d'un souffle de l'esprit, d'une vie avec une densité de cette puissance et de cette grâce de Dieu, de cet amour de Dieu, de cette vérité de Dieu, de cette justice de Dieu. Les temps de rétablissement de toutes choses, car Dieu envoie, et il est là déjà, et nous devons le reconnaître, il est au milieu de nous, plus encore, il est en nous. Il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit, celui qui nous est destiné, Jésus-Christ, par lequel nous pouvons, le texte nous le dit, par lequel nous pouvons être sauvés. Excusez-moi, je voudrais changer le verbe, parce que par lequel nous voulons être sauvés. Le pouvoir, il est acquis. Maintenant, la part de l'homme, notre part à chacun, c'est que nous le voulons. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta vie de l'Esprit. Que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez ce petit cœur? Oui. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. En tous les cas, frères et sœurs, ça fait deux fois que je vous le dis, de deux dimanches, je suis sûr, ne vous découragez pas, le Seigneur est là. Et le Seigneur va nous bénir, et il va vous bénir. Parce que il y a encore une bénédiction dans cette église et dans le peuple de Dieu autour de nous, là où il y a véritablement de véritables croyants. Vous y croyez? Vous y croyez que vous êtes croyants? Que Dieu nous bénisse. Voilà, on va prier simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons terminer cette année 2013 avec véritablement cet enthousiasme, avec cette joie, avec cette allégresse, même si cette année a été difficile. Même si nous avons connu des douleurs, des peines, nous avons connu la maladie, nous avons connu peut-être des séparations, nous avons connu, Seigneur, des espérances qui, eh bien, ne se sont pas encore réalisées. Mais Seigneur, je mets toute ma foi en toi. Et je crois que ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu as répandu, en effet, Père éternel, eh bien, des fleuves d'eau vive sur ton peuple. Et c'est vraiment des temps de rafraîchissement. Merci, Seigneur. Parce que nous croyons, Père éternel, qu'à un moment ou un autre, nous serons délivrés de toutes les contingences misérables, toutes ces contingences, Seigneur, de peine et de souffrance, dans lesquelles nous sommes, Seigneur, tellement captifs, et auxquelles nous prêtons peut-être trop d'attention, parce que, Seigneur, la souffrance n'est pas vraiment, eh bien, ce que nous aimons. Et pourtant, néanmoins, Seigneur, tu es venu faire briller la lumière dans nos ténèbres. Oui, Seigneur, tu marches devant nous, tu nous as ouvert la voie. Seigneur, tu n'es pas resté dans la mort, tu es ressuscité. Et nous avons aujourd'hui un Dieu qui est vivant, un Dieu ressuscité, un Dieu puissant. Merci, Seigneur, je te demande et je te prie pour mes frères et mes sœurs, quels que soient leurs problèmes, de quelque nature qu'ils soient, tu les visites en ces moments, Seigneur. Notre prière, elle est pour tous. Et nous croyons que nous voulons nous mettre en disposition. Et je te demande de passer dans les rangs, de passer dans les lits, de passer dans les cœurs, et qu'ainsi, par ton souffle de l'Esprit, tu renouvelles dans le baptême du Saint-Esprit, tu baptises du Saint-Esprit. Et ainsi, Seigneur, en effet, tu nous amènes, Père éternel, à rentrer dans cette dimension de vie, de cette plénitude de vie, qui est la plénitude du Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.